Chapitre 4. Gabriel, en allant attendre 10 heures dans les jardins, tomba sur M. de Chandoiseau, qui faisait l'éloge de sa femme au révérend Lovely. Rien ne pouvait être à la fois plus comique et plus pitoyable. Le pauvre clergyman était venu là, sans doute, dans le but d'éteindre, par des 100 pas multipliés, les secrets amours, les secrets ardeurs qu'il attribuait au climat et au lieu, et qu'il avait évidemment des agaceries malignes et savantes dont l'abreuvait la Parisienne. Que de fois l'avait-on vu marcher sur ce gravier craquelant, le chapeau à la main, les tempes humides de sueur, les yeux un peu égarés et comme honteux, quand un regard étranger les rencontrait, enfin marmottant du bout des lèvres les arides versets sacrés que contenait son remède et son salut. C'était à croire que le malin, selon son expression, était vraiment de la partie, puisque le malheureux, dans la fuite héroïque de la tentation, était rejoint précisément par le seul être au monde qui fut capable d'aviver sa plaie en lui parlant avec complaisance de Madame de Chandoiseau, Monsieur de Chandoiseau. Cet admirable mari n'y voyait point malice et n'était à 100 lieues de penser que chacune de ses paroles tombait en l'esprit de son compagnon de promenade comme les gouttelettes de la plus inflammable essence sur un brasier ardent. Il ne connaissait au monde que sa femme. Totalement étourdi par l'agitation perpétuelle qu'elle entretenait autour de lui, l'esprit anéanti par son incessant babillage, qu'il n'appréciait et n'entendait même plus, toute initiative paralysée d'avance par les 1000 volontés de cette tête de linotte, il avait l'illusion qu'elle couvrait et éclipsait l'univers. Ayant donc rencontré le révérend Lovely, il lui confiait avec une grande bonhomie le seul souci qu'il eut, et qui se trouvait être par un hasard, ni plus ni moins extraordinaire que les autres hasards, justement le seul souci du révérend Lovely. La simplicité naturelle du clergyman le préservant d'imaginer que Don Pierre avait pu pénétrer le fond troublé de son âme, la présence du jeune homme ne causa pas d'embarras nouveau dans le colloque. Il fut même le plus gêné des trois, par l'incertitude où il était de devoir renchérir sur l'apologie de Madame de Chandoiseau, ou bien tenter de faire dévier la conversation. Quelle était la détermination la plus généreuse à prendre, il l'ignorait. Le révérend en était-il actuellement à la période de lutte cuisante, où le pécheur se débat contre la tentation, ou bien touchait-il une de ces phases d'accalmie légère, que Dieu accorde par une bienveillance excessive, où l'horrible du péché disparaît, et où l'on s'en savoure une seconde d'ivresse ou d'hébétude, l'apparence enchanteresse. Peut-être d'entendre parler de la séduisante Herminie lui était-il doux. Peut-être puisait-il une sécurité trompeuse à écouter ses éloges prononcés par un organe légitime, ce qui lui semblait une garantie de l'impossibilité d'accomplir le péché. Car évidemment, cette femme, tant admirée de son mari, lui rendait estime et amour et ne distribuait au dehors, fût-ce au plus tendre privilégié, que le trop-plein d'une exubérante bonté. Le révérend Lovely écoutait attentivement son complaisant interlocuteur. Gabriel prit le parti d'en faire autant. Jamais le soupçon ne vint à l'idée de M. de Chandoiseau que le sujet qu'il traitait put ne leur offrir qu'un intérêt médiocre. Il ne tarissait pas. Don Pierre, en veine de méchanceté, crut devoir souligner son dire de ci, de là, par de légers signes d'acquiescement. Il poussait de temps à autre un petit bougonnement favorable. Il vit que le révérend lui en savait gré. Il insista. Il parla même. Ce fut au tour du révérend d'adopter ses signes d'acquiescement et son bougonnement favorable. Le clergyman s'entraînait, s'échauffait, s'enhardissait. Bientôt il n'y tint plus et parla. M. de Chandoiseau, étonné, soudain se tut et se contenta d'écouter. Ce fut une scène de passion bien touchante. Ce pauvre révérend se lança tout d'abord dans des généralités à perte de vue. Il citait d'innombrables versets et parlait de la femme avec un grand F dont il esquissa le rôle sublime et l'importance sociale. Puis la pécheresse l'absorba et il rappela de célèbres paroles d'indulgence. Enfin, il ne se posséda plus et chaque expression issue de ses lèvres avait trait à ne pas s'y méprendre à Madame de Chantdoiseau. Il prononça son nom. Il vanta principalement son éloquence, qu'il considérait comme un don divin. En second lieu, son intelligence, qui était évidemment supérieure par son agilité et la grande foule d'objets qu'elle embrassait sans aucune difficulté ni lassitude. Enfin, sa grâce, persuasive et insinuante, comparable à un parfum près duquel on ne peut point passer sans en être pénétré agréablement. Comme il se sentait emporté sur une pente irrésistible, il crut se modérer en ajoutant qu'il fallait se demander si l'excès dans la perfection ne contenait pas quelque chose de redoutable. « Bon, le croire, en effet, » dit M. de Chantdoiseau, qui eût préféré, quant à lui, que sa femme eut d'intelligence moins vive et moins éparse, et lui laissa un peu de repos. « N'est-ce pas, monsieur ?» reprit avec feu le clergyman, interprétant la réflexion de M. Chantdoiseau dans son sens à lui, et en s'imaginant que le pauvre mari pliait parfois sous le fardeau d'une très tyrannique passion. M. de Chantdoiseau, qui n'entendait point subtilité, ne contredisait pas, et continuait à son tour, en petit ronronnement inarticulé, le rôle d'approbateur que ses deux partenaires avaient tenu successivement. Le révérend Lovelace attendrit. La compassion afflua à son cœur excellent et troublé. Il prit la main de M. de Chantdoiseau et la serra. Dans ce moment-là, il se tut. C'était alors, assurément, que le besoin de confesser sa flamme se faisait sentir le plus impérieusement, et le pauvre martyr se clouait la bouche pour ne pas avouer au mari d'Herminie qu'une même flèche fatale les avait frappés l'un et l'autre, et qu'ils pouvaient marcher la main dans la main, portant aux épaules le poids douloureux et cher d'une précieuse croix. Les larmes lui mouillèrent la voix quand il la recouvra. M. de Chantdoiseau ne comprenait pas un traître mot à la scène. Il se pencha du côté de Dom Pierre. « Dites donc, » fit-il, « mais qu'est-ce qu'il a, notre pasteur ?»« Ben, il est trop bon. C'est une espèce de saint homme, quoique protestant. »« Ah, ça, » reprit-il en élevant la voix, « si nous fumions un cigare ?»« Volontiers !» lança une voix qui leur fit à tous tourner la tête du côté du lac. Et ils reconnurent tout près d'eux Dante Leonard William Lee, qui revenait encore en barque d'une de ces expéditions mystérieuses. « Ah !» dit M. de Chantdoiseau, « voilà notre poète !» Il prononçait ce mot poète en mêlant dans l'intonation tout l'enthousiasme artificiel qu'il empruntait par condescendance au culte de sa femme pour les arts, et la secrète opposition de sa nature d'angevin positif contre ce qu'il eût nommé volontiers, s'il eût osé, des balivernes. Le révérend Lovelace jugeait qu'il était superflu d'écrire, attendu que la rédaction des livres saints était arrêtée. Le terme de poète lui rappelait la lyre de David et les images des prophètes, et hors de là ne lui inspirait que de la pitié. Quant à Dom Pierre, personne ne croyait à la sincérité de son amitié pour le poète, attendu que sa profession à lui consistait dans l'étude de la statistique. Dante Leonard William mit pied à terre, tandis que son batelier muet s'éloignait sur l'eau sombre à grands coups d'aviron. Il était d'humeur alerte ce soir. Il prit le cigare que M. de Chantdoiseau lui offrait et s'excusa d'interrompre la conversation. « Mon Dieu !» dit le révérend Lovelace, « nous parlions de ma... » « La femme !» interrompit aussitôt Dante Leonard William, qui suivait certainement le cours de ses pensées et ne se donnait pas la peine de le dévier. La femme n'est qu'illusion. Monsieur de Chardoiseau, accoutumé au paradoxe, eut un sourire de complaisance. Qu'illusion ! Interjeta le clergyman. Mais monsieur, vous oubliez que la femme est mentionnée formellement dans l'écriture. Mais la femme n'est qu'illusion, poursuivit le poète anglais. J'entends la femme en tant que puissance séductrice, car elle n'est en réalité ni aimable ni belle, elle est bornée dans son esprit, et à plusieurs titres disgracieuse en sa chair. Je m'abstiens d'insister sur les imperfections de son corps, qui n'ont d'égal que l'outrecuidance présomption de bonté qu'elle en tire. À force de voiler ses prétendus charmes, on nous a persuadé qu'elle en a. Les anciens, plus familiers que nous avec l'aspect du corps féminin, lui donnaient rarement la préférence. Et le christianisme, pour éviter de pareilles déviations dans les choix, a fait de la femme un porte-parure en la couvrant à outrance de tissus et d'ornements propres jadis à attirer l'attention du menu peuple sur les idoles. Peut-être ne fût-ce pas assez, car c'est de peur qu'on ne se détourna d'elle et qu'il en incarna en elle le péché. Oui, sublime, ornement incomparable, et la plus merveilleuse trouvaille psychologique issue de la cervelle humaine. Brillante et dangereuse, la femme devenait un excitant des plus nobles facultés de l'homme, la bravoure et le goût du beau. Les verroteries nous fascinent, le péril nous exalte, et le culte moderne de la femme est fait de cette double exploitation de notre crédulité. « Mais monsieur, s'écria le révérend Lovelet en se bouchant les oreilles, vous n'avez donc pas reçu le baptême ni ouvert l'écriture, il est dit. « Je trouve notre poète très amusant, dit monsieur de Chardoiseau. Je regrette seulement que ma femme ne soit pas là, car elle apprécie beaucoup la philosophie de monsieur. » « Ne le regrettez pas, dit Don Pierre, car devant madame de Chardoiseau, lui ne saurait vous dire la forme déconvenue qu'il a certainement éprouvée ce soir dans quelque aventure galante. Il va nous la dire, entre nous voyons, mon cher Lee. » Le poète ne les écoutait plus, et jugeant avoir fait assez pour la politesse qu'il devait à monsieur de Chardoiseau en échange de son cigare, en le gratifiant de ce petit discours, il s'éloignait à longs pas, sans seulement souhaiter le bonsoir. Son brusque passage au milieu de ces messieurs et le retentissement de son étrange diatribe contre la femme leur laissaient un malaise qui toutefois les avait sauvés de celui où les eût plongés l'épanchement du clergyman amoureux. « C'est un homme bien original, dit M. de Chardoiseau, c'est un blasé. » « Tout au contraire, fit l'ami de l'anglais. Oh, je ne serais pas étonné qu'il fût vierge. »« Est-ce possible ? » s'écria le révérend Lovely. « Oh, j'en ai connu bien d'autres. Mais ce qui me porte à supposer que celui-ci l'est, c'est que je connais de lui des poèmes contenant à l'égard de la femme une passion si extraordinaire, si farouche, si éperdue, que je ne crois aucun homme ayant touché la femme capable d'atteindre un tel délire. « Je ne vous comprends pas bien, dit M. de Chardoiseau. Bien, c'est en second lieu que je ne vis jamais personne ayant en vue une femme déterminée s'élever contre elle avec une plus criante injustice, un plus amer dégoût. À qui pensait-il il n'y a qu'un instant ? Je n'en sais rien. » Mais je puis vous affirmer qu'il avait en vue une ou plusieurs personnes dont il distinguait mentalement, mais très nettement, tel ou tel détail très réel avec lequel, grâce à l'habitude, un amant se familiarise et s'exalte aveuglément, tandis que le vierge répugne à sa seule représentation. « Mais l'écriture sainte, dit le réverbère, il est temps d'aller vous coucher, fit brusquement M. de Chardoiseau. » en approchant la lueur de son cigare du cadran de son chronomètre. « En effet, 10 heures vont sonner dans quelques minutes. Bonne nuit, messieurs !» Gabriel remonta doucement du côté des annexes de l'hôtel, où le menu bruit d'un jet d'eau l'attirait presque chaque soir, à l'heure de ses rendez-vous avec ma madame Belvidera. Le bassin se trouvait garanti par l'ombre épaisse des arbres verts et par le mur nu d'une petite chapelle où se célébraient les dimanches les offices du culte anglican. Un banc de bois demi-circulaire était placé au pied des arbres. Aucun regard indiscret ne pouvait plonger en cet endroit. Et la brise de nuit dans le feuillage, unie au murmure de l'eau, suffisait à couvrir leur voix. Quand tout était assoupi, ils allaient plus loin, vers une tonnelle d'été plus meublée, mieux close. Parfois, ils voulaient se figurer que le jardin était à eux, et ils passaient une partie de la nuit à en parcourir les allées, à humer les fleurs, les herbes et la terre endormie. Un vieux tronc d'olivier, dans un endroit désert, était assez grotesquement aménagé pour qu'on pût monter jusqu'au cœur de ses branches noueuses par un escalier tournant, et l'on trouvait en haut une plateforme avec une table et des chaises. De là, la vue s'étendait au loin, et quand leurs nuits heureuses se prolongeaient jusqu'au petit jour, ils montaient dans le vieil olivier pour voir blanchir le lac au milieu des montagnes. Il attendit un temps toujours trop long au pied des arbres verts. Il voulait s'efforcer de la voir arriver de loin au travers du feuillage touffu, et dans l'ombre, gauchement, il s'appliquait le visage contre les mille épingles noires des basses blanches et exécutait un vif mouvement de retrait avec une grimace en riant de sa sottise. Cependant, il entendit son pas sur les feuilles que l'automne déjà répandait en abondance, et presque aussitôt, elle fut près de lui. Elle était tout en blanc. La masse de ses cheveux et ses yeux seuls se confondait avec la nuit. Mais sa silhouette pleine et légère prenait sur le fond d'ombre la vie et l'intensité particulière que donne le trait, le contour précis. Sa forme enivrante se livrait par l'effet d'un hasard. Il ne put s'empêcher de pousser une espèce de cri animal. Elle le gronda de son incorrigible brutalité du premier moment. « Bah, lui dit-il, mais tu ne comprendras jamais ce que c'est que de te voir venir. Tu ne sais pas comment tu es faite, ni ce que contient la sinuosité de ta taille. » « Combien de fois tu t'es piqué ce soir contre les petites pointes ?»« Une fois seulement. »« Oh, c'est pas assez. Il faudrait trois au moins. »« Comme ça, tu ne me verras plus si bien quand j'arriverai. »« Tu ne me verras que petit à petit. »« Ce sera plus doux et meilleur. »« Oh, je saurais bien me mettre en retard. »« Non, non, tu ne sauras pas. »« Oh, ça ne m'est jamais arrivé. »« Jamais. »« Alors, c'est que je t'aime trop. » Ça ne peut pas durer. Tais-toi, ma chérie, tais-toi. Sa taille se ployait sur le bras du jeune homme. Cette ampleur, cette souplesse et ce poids doré l'étonnaient toujours en lui causant un si grand ravissement. Elle lui entoura le cou de ses beaux bras élevés dont les manches lâches retombaient jusqu'à l'épaule, et l'imperceptible et soyeux duvet de sa peau de brune se laissait lustrer par ses lèvres comme le dos onduleux d'une chatte sous la main. Elle embaumait alors jusqu'à causer une soudaine et complète ivresse. Il la suppliait de ne pas lui donner sa bouche. « Ce serait trop, non, non, ce serait trop !» Et elle se faisait un jeu de la lui imposer. Quand il eut la force de relever la tête, il lui parla d'un projet qu'il caressait depuis plusieurs jours et qu'il voulait mettre à exécution dès le lendemain. « Mais nous parlons pas de demain, » dit-elle. « Mais pourquoi, pourquoi ?»« Je ne sais pas, mais toi-même, généralement, tu n'aimes pas parler de l'avenir. »« Mais demain, ce n'est pas l'avenir. Demain, c'est là, tout près, nous y touchons. »« Voyons, est-ce que nous ne disons pas tous les jours « à demain » ?» Est-ce que nous ne combinons pas nos promenades pour le lendemain? Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui te prend? Qu'as-tu? Tu as reçu... Enfin, il y a des nouvelles? Non, 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 il n'y a rien, je t'assure. Si, tu as reçu une lettre ce soir, j'ai vu le portier te la remettre.
Oui, c'est vrai, mais je te jure, mon Mio, il n'y a rien, non, non, rien, rien de menaçant, d'imminent. Comment dire, non, 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 il n'y a rien. Je ne sais en vérité pas pourquoi je t'ai dit de ne pas parler de demain.
Il était tombé sur le banc. Il lui semblait que tout à coup son sang s'écoula ou que son cœur se fût arrêté. Il se sentait frappé subitement du plus grand malheur qui le pût atteindre. Il comprenait d'un coup la violence de la passion qu'il éprouvait, la nécessité absolue de cette passion pour lui, le choc épouvantable, irrémédiable, au cas où ce lien, si jeune encore mais si vigoureux, viendrait à être brisé. Et il ne se pardonnait pas de n'avoir pas prévu que ce malheur pouvait arriver d'un moment à l'autre, devait arriver, inévitablement. Non, il était si fou qu'il n'y avait pas pensé. « Votre mari arrive, dites. Dites-moi que votre mari arrive. » Elle eut un moment d'hésitation à répondre, qu'il attribua à la difficulté qu'elle avait peut-être à mentir, mais qui pouvait provenir chez elle de la légère stupeur provoquée par ces mots « votre mari » que son amant n'avait jamais prononcé. Puis elle vint avec lui avec toute sa tendresse accoutumée.
« Mais non, Mio, puisque je t'affirme que non, puisque je t'affirme qu'il n'y a rien de nouveau, rien.
Tu me le jures ?
Je te le jure.
Mais sur quoi ?
Ben, va. Mais sur quoi ? Sur quoi ? Mais sur ce que tu voudras.
Sur ? Sur la tête de ta fille.
Sur la tête de ma fille ?
Dit-elle en élevant la main. Puis ses larmes jaillirent tout à coup à flots, et elle laissa tomber sa tête sur l'épaule de Gabriel. Il la dévorait de baisers, dans une ardeur affolée, dans une joie de brute d'être délivrée de la crainte de la perdre dès demain. Elle lui dit en pleurant qu'il était cruel. Il fallait qu'il fût plus que cruel, mais tout près de toucher à l'ignominie pour oser réclamer de cette malheureuse, à propos de lui, un serment sur la tête de sa fille qu'elle adorait et qui était entre elle et son amour coupable, comme un perpétuel trouble, peut-être comme un vivant remords. Il la supplia de lui pardonner. Il mordait la chair, les lèvres, les cheveux. « Mais je t'aime, vois-tu, je t'aime, comme un animal sauvage !» Elle essuya ses yeux et se penchant doucement vers lui.
« Et ce projet pour demain ? » dit-elle.
« je viens, ma femme bien-aimée !» Telle était la phrase qui se répétait avec une insistance, pleine de tendresse, dans les lettres quotidiennes de Monsieur Belvidera. Le courrier du matin arrivait un peu avant midi. Le portier de l'hôtel faisait le tour des salons et du hall. De longues américaines interrompaient leur balancement dans la rocking chair pour recevoir d'énormes paquets de journaux ficelés et leurs correspondances. Des italiennes, qui tenaient leurs bras nus appliqués sur la surface fraîche des petites tables de marbre, lisaient aussi à distance, en prononçant à haute voix quelques phrases d'un ton toujours trop élevé. Et comme Madame Belvidera avait parcouru la lettre de son mari, et que la petite Louisa n'était pas là pour lui poser 1000 questions au sujet de son père, la jeune femme laissait aller sa tête contre le dossier de jonc souple et craquant, et les paupières baissées, la bouche grave, elle songeait, avec l'espoir secret, que quelqu'un viendrait l'interrompre et l'empêcher de penser. Elle se revoyait à l'âge qu'avait aujourd'hui sa fille, enlevée brusquement de Florence par la mort presque simultanée de son père et de sa mère, et emmenée à Naples par une tante. Ce départ avait mis le comble à la première peine de sa vie, car après ses parents, l'être qu'elle aimait le mieux au monde était Andrea Belvidera, son compagnon d'enfance, quoique plus âgé qu'elle de 6 ou 7 ans, auquel, tout en jouant, elle s'était promise pour plus tard. C'était un jeune homme sérieux et beau que l'on comparait volontiers à Florence, à ses adolescents superbes qui accompagne les Médicis dans les fresques du Guinzone au Palais Riccardi ou à Pise. En quittant sa petite amie, il lui avait dit en lui baisant la main « Oh, j'irai te chercher en quelque endroit que tu te trouves. » Elle lui avait répondu simplement « Je t'attendrai. » Il était allé achever ses études à Heidelberg et à Paris. À son retour à Rome, il s'était fait attacher au cabinet d'un ministre. Il avait publié plusieurs ouvrages de sociologie remarqués et élu député à 27 ans, il était parti immédiatement pour Naples demander la main de Louisa. Louisa l'attendait, ils s'étaient embrassés comme au jour de leur séparation. Leur bonheur avait été simple et vrai. Ils semblaient créés l'un pour l'autre et ils n'avaient jamais pensé que l'un à l'autre. Dans la société de Naples, de Rome, de Florence, on les citait comme le ménage le plus uni et le plus parfait. Leur adorable petite fille était la récompense bien due à leur union si exemplaire. Aucune ombre n'avait passé sur leur félicité. Ils s'étaient séparés pour la première fois depuis 6 semaines. Et Louisa était la maîtresse d'un étranger qu'elle connaissait depuis 15 jours. « je viens, ma femme bien-aimée, » disait la lettre. M. Belvidera était maintenant à Florence. Il racontait avec bonne humeur à sa femme les péripéties de sa visite à ses électeurs courroucés parce qu'il s'occupait de sauver le peuple de Rome. Puis il donnait 1000 détails sur la maison, le jardin, les fruits, la vieille bonne préposée à la garde de la demeure de la famille. C'était la maison où elle était née, où ils s'étaient connus, où ils avaient joué enfants, où ils s'étaient promis pour la vie. Cette maison était située sur la pente de Fiesole et les murs y étaient encore garnis de très anciennes peintures. Louisa revoyait par la pensée les jeunes seigneurs et les dames de couleur passés qu'il avait regardés grandir, impassibles dans leur belle contenance, et qui étaient ainsi pour elle des amis. M. Belvidera l'avertissait précisément qu'une de ces dames se détériorait et qu'une large croûte s'était détachée de sa chevelure blonde. Un scorpion, attribut mythologique, avait quitté la main d'un jeune homme et en avait trouvé sur le sol les débris réduits en poussière. Ces petites choses avaient pour elle une extraordinaire éloquence et comme personne n'était venu à son secours en interrompant sa rêverie, elle ouvrait de grands yeux égarés, la réalité l'étonnait et la stupéfiait. Était-ce à elle qu'il écrivait, lui, sur ce ton simple et confiant? Était-ce à elle que l'on racontait ces petits détails? Jamais ces vieux murs, ces fresques et les plus menus objets de la maison ou du jardin ne lui avaient paru si vénérables, si sacrés. Et que quelqu'un en prononçât seulement le nom devant elle lui donnait la sensation, jamais ressentie encore, d'une profanation. Mais elle rejetait vite cette impression pénible, car elle avait le goût de sa personne, et elle ne voulait pas à tout prix, elle ne voulait pas que quelque chose en elle lui répugnât. Allons, effaçons le présent, il ne tient pas, il s'effritera de lui-même, il n'aura pas de durée. Retournons à cette chère maison calme et heureuse. Ah, la jolie villa! Quelle paix le long des chaudes journées et quelle délice le soir venu! On entend ronfler le tramway électrique de Fiesole. Andrea revient de la ville. Elle le guette de la terrasse. Elle l'aperçoit sur la plateforme. Il agite son mouchoir. Sa tête aimée paraît au-dessus des murs garnis de roses. Le train monte et décrit une courbe en ronflant plus fort, puis un arrêt, une grille ouverte et refermée. Il est là, il lui apporte quelques surprises amoureuses et la franchise de ses baisers. On dîne et l'on va côte à côte sur la terrasse entre les cyprès noirs et les églantiers, voir tomber le soleil au-delà de la grande plaine de Florence. Et c'est la petite Louisa qui, de sa chambre, les appelle pour leur adresser des bonsoirs de ses deux petites mains appuyées sur sa bouche. « Tu peux venir, Andrea, va, tu peux venir me chercher, » prononce-t-elle à mi-voix. « Nous retournerons là-bas ensemble, je me pencherai encore sur ton épaule. Est-ce que tu crois que j'ai cessé de t'aimer ?»« Est-ce qu'il le croit? Mais pourquoi dit-elle cela ?»« Mais non, il ne le croit pas. Il dit seulement, « je viens, ma femme bien-aimée. » Ah, mais ça, personne ne va donc l'interrompre. C'est un fait exprès. Il ne passe ce matin sous le hall que des figures étrangères, des gens arrivés d'hier. Et elle pense, la malheureuse femme. Cela devient pour elle une idée fixe de poser sa tête sur l'épaule de son mari. C'est la seule chose qu'elle désire au monde. Elle ferait sa tête lourde. Elle ne sourirait même pas. Elle garderait sa figure sérieuse en fermant les yeux, puis elle relèverait doucement les paupières. A-t-il tourné la tête? Me voit-il? Ne me voit-il pas? Ah, il m'a vu! Alors on rit de tout son cœur, et lui me dit en la baisant, « Chatte, chatte !» Eh bien, mais non, cela n'est pas possible, ça n'arrivera plus jamais. Ah, c'est bien fini, mes amis. Comment voulez-vous que cela se produise jamais de nouveau? On a beau faire, ce qui est ne s'effacera pas. Elle le sent bien, sous son front, là, dans un petit endroit où il semble que toute sa mémoire soit logée. C'est un point, une espèce de boule grosse comme une bille, et qui lui fait mal, qui pèse. Jamais cette boule ne roulera, ne se déplacera, ne partira. Dans cette boule, quelque chose d'inouï est inscrit. C'est elle-même qui l'a inscrit, elle le sait, elle le reconnaît parfaitement. Oui, oui, elle l'a voulu, on ne lui a pas forcé la main. Après l'avoir inscrit, elle a ri, elle a chanté, elle a été heureuse. Cependant, c'était sa condamnation. Et du diable, par exemple, si elle sait comment elle a pu faire cela. Elle fronce les sourcils avec colère, elle secoue la tête. Tout son cerveau s'ébranle en un seul point. Quelque chose reste fixe et on dirait que tout pivote autour. La bille. Alors elle essaie de se réfugier dans son mal même. Elle ferme encore les yeux. Elle se fait douillette, elle pense à mille petits frissons et à une espèce de volupté de vertige. C'est bien ce qu'elle a toujours ressenti de ce côté-là. C'est dans le vertige qu'elle a trouvé la raison de faire ce qu'elle ne comprend plus qu'elle ait fait. Tout d'un coup, la tête vous tourne et on se jette, on pousse un cri. Ah, sacristi, c'est une drôle de chose tout de même. Est-ce que c'est de l'amour, cela ? Comment voulez-vous demander à une femme si celle qui éprouve est de l'amour quand elle se précipite ainsi du haut du parapet? Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle réfléchit? Est-ce qu'elle étiquette ses sentiments? Plus tard, alors, longtemps après, elle vous répondra. Quand le temps aura passé, aplani le terrain, quand sa pauvre cervelle ne sera plus exposée à se pencher vers ses défaillances du sol, qui appellent avec une insistance à vous rendre fou. Que l'on songe aussi qu'il est exceptionnel qu'une femme demeure à penser, envahie par une torpeur étrange, aussi longtemps que le fait Madame Belvidéra, sans qu'un être humain en passant vienne s'emparer de son attention mobile. En vérité, si cela durait un peu plus, elle finirait peut-être par savoir si elle aime ou n'aime pas son amant. « Ah, Dieu merci, voici quelqu'un. C'est Solveig. » La jeune fille s'avance dans une gracieuse toilette mauve qui s'allie à ravir au blond tendre de ses cheveux, sa taille fine à la souplesse d'un jonc. La voir marcher vous fait sourire et vous donne frais. Elle est quelquefois joyeuse comme une enfant. Quelqu'un lui a dit un jour qu'elle était plus jeune que la petite Luisa, son amie. D'autres fois, une grande mélancolie affine toute la chair de son visage et répand une ombre trop large autour de ses yeux, pareils à la goutte d'eau qui reflète le ciel pur. Madame Belvidéra se sent soulevée, attirée vers elle. N'est-ce pas un secours que la Providence lui envoie ? Ah, Dieu, embrassez cette jeune fille et parlez d'enfantillage ! Elle a fait un mouvement vers Solveig. Elle a failli lui tendre les mains. Mais Solveig, en l'apercevant, a pris cette figure froide, immobile et sans saveur, qu'elle lui a déjà remarquée si souvent depuis le jour du déjeuner à l'Isola Bella. Solveig ne lui parle qu'à l'occasion de la petite Louisa, qu'elle aime. Dans toute autre circonstance, ce n'est pas le ciel que reflètent les yeux de cette jeune fille. C'est la grotte, la maudite chambre de Vénus, où une image ineffaçable s'est fixée sur sa rétine. Et Solveig passe et salue simplement Madame Belvidéra. Celle-ci comprend et se rejette sur le dossier de la chaise d'osier. Elle ne souffrirait pas davantage si on lui avait craché à sa figure. Elle regarde s'éloigner Solveig. Elle n'a même pas le droit de lui en vouloir et de la haïr. C'est elle qui a déposé dans les yeux de cette jeune fille l'ineffaçable image. Un mouvement nerveux lui fait froisser la lettre qu'elle tient à la main. Puis elle répare inconsciemment d'un coup d'ongle les brisures du papier glacé et elle lit sous son ongle « je viens, ma femme bien-aimée. » « Ah, ma chère belle, que je suis heureuse de vous rencontrer. Venez un peu que je vous raconte. Vous ne vous imaginez pas quelle affaire. » C'était Madame de Champdoiseau qui revenait avec toutes les Anglaises de l'hôtel, du service protestant auquel elle assistait par galanterie envers le révérend Lovelay, qui avait fait aujourd'hui une allocution d'un caractère si inattendu que tout le monde en était sens du dessous. Dom Pierre venait de prendre ses dispositions pour la réussite de son projet, qui était de passer avec sa maîtresse toute une soirée dans la solitude d'Isola Madre, quand cette île magnifique débarrassait des visiteurs. Il aperçut le hall plus garni que de coutume. On semblait y causer avec animation, mais en chuchotement mystérieux. Madame Belvidéra s'y trouvait, et recevait avec une expression de physionomie très curieuse les confidences de Madame de Champdoiseau. Au moment où il allait entrer, elle se détacha du groupe et vint de son côté en ouvrant son ombrelle sous le prétexte d'aller sur la route voir arriver la diligence. Il crut qu'elle était anxieuse de savoir le résultat de ses combinaisons. « Tout va bien, lui dit-il, nous aurons deux barques pour 5 heures. Une pour vous, une pour moi. Vous irez directement à l'Isola Madre, moi à l'Isola Bella, et cependant je changerai d'idée à moitié chemin et vous retrouverai sur les rochers. » Elle ne pouvait s'empêcher de rire. « Mais qu'y a-t-il donc ce matin ? » lui demanda-t-il. « Ça, mais vous m'écoutez même pas ce que je vous dis. » « Ah, dit-elle, laissez-moi respirer et venir faire un tour sur notre route. Je vous défie de deviner ce qu'il y a. Donnez-vous votre langue au chat, parbleu. Vous avez vu tout ce remue-ménage sous le hall ? Eh bien, dans le salon, c'est la même chose. Dans les corridors, on chuchote avec le même entrain. Par toutes les portes ouvertes, j'ai entendu des rires étouffés. Oh, au fait, je vous en prie, qu'est-ce que tout cela signifie ? Attendez donc. Je suis venu vous prévenir afin de vous éviter, précisément, de recevoir un choc trop violent, et afin que vous ne soyez pas étonné si vous apercevez que l'on vous lorgne un peu plus qu'à l'ordinaire, car l'histoire vous touche. Presque, indirectement, mais presque tout de même. Mais je vous en supplie. Ben voilà, non, il ne s'agit pas de vous, mais de votre ami, le poète anglais. Il a fait quelque extravagance ? Du tout, il n'a rien fait.
mais il paraîtrait que l'on sait de lui une particularité très curieuse, en même temps qu'édifiante, à laquelle le révérend Lovely aurait fait allusion. Ce matin, au prêche, dans la petite chapelle là-bas, vous savez, tout en s'élevant avec véhémence contre le péché de la chair. Oh, vous y êtes? Mais c'est moi-même qui, hier au soir, ai eu l'imprudence d'émettre devant le révérend une simple supposition touchant une particularité des mœurs de Leslie. Une supposition, d'ailleurs, plutôt humoristique, une supposition d'après-dîner. Et voilà ce vieux! Vous savez que le révérend Lovely est tout spécialement élevé depuis qu'il lève quelque temps contre le péché de la chair. Oh, je crois bien, oui. Alors il a dû être fortement impressionné de cette abstinence édifiante chez un homme du monde, riche, presque célèbre, etc. Et tels sont les termes dont il s'est servi, paraît-il, pour le qualifier. Il n'a pas résisté au désir de le donner en exemple. Mais enfin, il eût bien pu le faire sans le désigner si clairement. Mais peut-être ne l'a-t-il pas désigné si clairement, j'en sais rien. Vous pensez bien que je n'étais pas au prêche, mais Madame de Chat d'Oiseau y était. Madame de Chat d'Oiseau? Oui, elle ne pouvait pas perdre l'occasion d'entendre parler son petit Lovely, ainsi qu'elle le nomme familièrement. Elle va l'entendre tous les dimanches, elle lui fait, je crois, tourner la tête. Enfin, vous pensez que celle-là a compris à demi-mot et qu'elle était de taille à mettre les points sur les i pour les personnes qui n'avaient pas compris tout à fait. Mais tout cela est grotesque, absurde. Mais que voulez-vous y faire? Pourquoi vous amusez-vous à plaisanter, vous, le soir, après dîner, avec des gens qui n'entendent pas la plaisanterie? Mais ce n'était pas à proprement parler une plaisanterie, c'était une opinion personnelle, formulée avec un léger tour paradoxal. D'ailleurs, cela n'entachait nullement la réputation de Lee. Il ne pouvait prendre une teinte ridicule qu'en passant par l'organe de Madame de Chant d'Oiseau. Eh bien, mais la belle passion de Madame de Chant d'Oiseau pour Lee, comment l'accommoder avec cet entrain à le couvrir de dérision? Elle ne l'aime plus, dit-elle. Cette particularité lui répugne. Ha ha, délicieux! Elle n'aimait que le faux vierge. Elle ne peut se passionner que pour le cabotinage. La sincérité lui paraît vulgaire. Et avec ça, c'est un vrai potin dans tout l'hôtel. Ah, votre pauvre ami ne va pas savoir où se nicher. Lee, oh, vous n'y songez pas, il ne s'apercevra de rien. À peine Gabriel avait-il pénétré dans le hall que Madame de Chant d'Oiseau se précipitait à sa rencontre. Mais enfin, vous, monsieur Dompierre, vous devez savoir le fin du fin de ces histoires-là. Dites-nous plutôt ce qu'il y a de vrai. Nous sommes anxieuses, nous palpitons. Madame, dit-il en passant un coup de vent, j'ignore absolument ce dont vous voulez parler. « Excusez-moi, mon ami Lee m'a prié de l'aller prendre à l'heure du lunch. » Il trouva Lee dans sa chambre, fort éloigné de croire que tout l'hôtel était occupé de lui. Il se garda bien de l'en avertir et le poète lui parla aussitôt d'un problème d'esthétique fort intéressant et dont traitaient plusieurs journaux d'art à l'occasion du différend qui avait appelé le peintre Antonius Plaisant à Venise. Le sujet les échauffa tellement l'un et l'autre qu'ils furent en retard pour le lunch. Il résulta qu'ils eurent, Lee et lui, des physionomies si naturelles en se mettant à table, que la clientèle de Madame de Chant d'Oiseau exerça sa malignité en pure perte. Lee continua à manger posément, avec appétit, et il parlait avec ce calme et cette heureuse abondance que lui communiquait toujours un sujet prise à cœur. Il s'agissait du rôle prépondérant ou non de la suggestion dans les arts. Il soutenait, contre les objections de son ami, qu'en plastique comme en littérature, l'idée suggérée était essentielle et suffisante à constituer l'œuvre d'art, fût-elle exprimée par une image imparfaite ou un pauvre style. Matière à controverses éternelles. Malgré tout, Gabriel se laissait gagner lui-même par l'intérêt médiocre qui agitait autour de lui les cervelles et dont il avait lui-même fourni innocemment le thème. Les manières de Lee l'intriguaient. Sa vie mystérieuse ne pouvait le laisser indifférent, et les contradictions qu'il affectait dans ses appréciations de la femme le rendaient, tout comme Madame de Chantoiseau, il faut l'avouer, anxieux et palpitant de déchiffrer l'énigme. Il s'avisa que leur thème même du rôle de la suggestion pourrait les conduire à un chapitre moins abstrait que celui de l'art pur, et sous l'influence amollissante de l'après-midi, tout en prenant le café à l'ombre tournante du bâtiment de l'hôtel, Lee descendit facilement à l'instigation de son compagnon à parler de la femme. « J'ai plus de raisons de l'admirer que vous, dit-il, puisque je l'admets la valeur propre de la suggestion, c'est-à-dire de l'impression de l'image ou de l'idée suggérée, tandis que vous ne concédez ces qualités vénérables qu'à l'objet offrant en elle-même l'apparence d'une perfection. La femme est essentiellement imparfaite, au moral comme au physique, ainsi que je vous le disais hier soir, tandis qu'elle est éminemment suggestive de nos impressions les plus savoureuses, de nos plus harmonieuses pensées, de nos représentations imaginaires les plus parfaites. Sa vue donne l'idée du bien comme du beau. Elle est exactement équivalente à ce tableau d'exécution fautive qui divise en ce moment nos maîtres peintres à Venise, mais qui a cependant tant de sens et donne l'idée d'une si touchante beauté qu'il a rallié tous les sentiments populaires et ceux d'un très grand nombre d'artistes. Pardon, la femme est quelquefois un chef-d'œuvre accompli. Taisez-vous donc. Vous parlez avec des yeux d'amoureux, c'est à ne pas s'y méprendre. Je vous vois nettement regarder en ce moment l'image physique et morale que votre amour vous crée de toutes pièces, mais qui ne correspond pas, qui ne peut pas correspondre à la réalité. Pardonnez-moi si je vous blesse. Au fait donc, je vous en prie. Notez que vous avez 100 fois raison de juger ainsi. Mais je vous ferai remarquer en même temps l'opposition inattendue qu'il y a entre un statisticien et un poète dans leur façon d'envisager la réalité du monde. C'est vous, statisticien, qui transposez l'objet réel en obéissant instinctivement à l'ordre admirable et généreux de la nature. Et c'est moi, le poète, qui, sorti de l'obéissance aux lois naturelles par l'abus de la réflexion et l'usage de la transposition artificielle, ne puis plus idéaliser spontanément l'objet, et n'y réussit qu'après un effort qui m'entraîne par la force de l'élan à la généralisation, à la transposition idéale, dans laquelle l'objet en question a perdu à peu près tous ses traits caractéristiques. Je m'explique. Je ne reçois pas au contact d'une femme ce coup de folie qui fait d'elle à vos yeux un objet de volupté, un objet à part de tous les autres, presque à part du jugement. Je ne peux pas perdre la tête. Comprenez-vous ce genre singulier d'intimité ? Je juge et apprécie sans répit. Dès lors, il n'y a jamais de quoi s'enflammer. Et je ne pourrais goûter de plaisir que par le secours d'une hallucination volontaire, représente une idéale image, laquelle voilerait complètement la personne enclose en mes bras. Telle est l'idéalisation artificielle qui est mon lot. Son désavantage est d'être consciente, de me laisser toujours très nettement apercevoir la nécessité de son emploi, par conséquent, de m'imposer le sentiment de l'insuffisant de la femme telle qu'elle est, ce qui me rend misogyne en un sens, et d'autre part, de me forcer à l'idéalisation à outrance, ce qui me permet de passer pour un poète de l'amour. Oui, alors que vous ne pouvez pas l'éprouver. Non, dit-il, je ne puis pas l'éprouver. En êtes-vous bien sûr ? Mais je n'ai jamais pu l'éprouver. » En ce moment, sa figure prit une expression qui contrastait si violemment avec son ordinaire impassibilité que Gabriel ne put retenir un mouvement de surprise. Son masque glabre, à la fois très osseux et charnu, accusa des traits qui n'étaient que ses traits habituels, bien entendu, mais qui se soulignaient, s'accentuaient, comme si, sur les lignes d'un visage dessiné au crayon, quelqu'un passait rapidement un épais tracé à l'encre noire. Une profonde douleur secrète semblait lui labourer toute la chair, rétractant tour à tour ce qu'il y avait d'éléments jeunes dans sa physionomie, et n'y laissant émerger que les saillies du squelette et le feu très ardent, mais étonnant, presque inhumain, du regard. C'était si tragique et si clair que celui qui en était témoin en frissonna. Il n'osa l'interroger davantage. Lee restait là, sur le dernier mot qu'il avait prononcé, muet comme une statue, mais livrant malgré lui le secret de sa grande douleur. Elle le rongeait, évidemment, mais il la savourait encore. Il la magnifiait en lui-même. Il savait que le seul palliatif pour un être de son espèce était de s'enorgueillir de son mal. Son mal même, il l'idéalisait à outrance. Son mal était de ne pas pouvoir aimer. Il payait la rançon de l'idéalisme. Sa nature d'homme se révoltait par moments contre l'orgueil de son esprit. L'une, presque étouffée, se soulevait désespérément dans un effort dernier, et l'autre, implantée en maître, la piétinait et la refoulait sans merci. Généralisée, idéalisée, de concevoir que l'essence et le type, le divin, la beauté, besogne admirable qui place assurément certains créateurs au rang de demi-dieux. Mais on oublie ordinairement que ces facultés héroïques ne se développent qu'au détriment des instincts fondamentaux les plus simples de la nature humaine, lesquels ne se laissent arracher qu'au prix d'une espèce de martyr. L'être réel et particulier, l'homme, la femme, n'existait plus pour lui qu'en tant qu'intime et misérable cellule de l'être synthétique et superbe qu'il lui fallait imaginer, et dont la seule représentation hantait les désirs de sa chair et se prêtait volontiers aux vastes élans de son affectivité. Cependant, sa nature d'homme, sur quoi s'étayent en définitive tous nos plus célestes échafaudages, se mourait, faute de cette misère, aimer une femme. L'ombre s'allongeait autour d'eux, les hôtes des îles Borromées se faisaient plus nombreux autour des petites tables, et le jeu des cuillères contre la glace fondante et les parois des verres leur redonnait son habituelle musique argentine. Madame Belvidera s'assit non loin d'eux avec la petite Louisa et fit comprendre d'un léger signe à son amant qu'elle avait tout préparé pour leur fuite de 5 heures. Lee s'était levé et éloigné aussitôt, sans ajouter une parole à l'aveu bref qui lui était échappé. Il se dirigea du côté du lac et, ayant repris son flegme, il alluma un cigare. Toutes les personnes présentes le regardèrent descendre vers les jardins. La plupart inclinaient la tête un peu sur l'épaule. Dompierre se souvint d'avoir vu un jour Madame de Chandoiseau et sa suite l'admiraient ainsi de loin, pour rien, parce qu'il était étrange, simplement. Et aujourd'hui que son étrangeté prenait de la précision dans les cervelles de moineaux, on se moquait de lui. « Il est vierge », telle était la phrase creuse que prononçaient toutes les bouches. L'était-il dans le sens vulgaire où ces personnes l'entendaient ? Oh, la question importait assez peu, depuis qu'était connue la triste virginité morale dont lui-même essayait de se faire gloire et dont il était accablé. Le jeune homme resta un assez longtemps volontairement isolé dans la torpeur de la chaude après-midi. Comme chaque jour, quelques notes de piano tintaient sous les doigts moites d'une femme, interrompues infailliblement par la prompte fatigue de ses heures lourdes. Le tonneau d'arrosage dans les allées de gravier promenait son ondée quotidienne. Gabriel regardait de loin la jeune femme qui se préparait pour lui à la plus voluptueuse des soirées
et chacun des mouvements de sa nuque ou de ses mains lui faisait frémir toute la chair. Où donc allait le pauvre lit à cette heure délicieuse et terrible? Partait-il déjà pour une de ses promenades solitaires, où, dans la compagnie de ses vieux bateliers muets, il s'acharnait jusqu'au cœur de la nuit à tirer de la puissance de son rêve l'équivalent du simple plaisir humain qui lui était interdit? Ou bien, qui sait, peut-être cherchait-il l'amour? Peut-être épuisait-il son désespoir d'aimer le long de ces belles rives peuplées de créatures si diverses? Allait-il à Baveno, à Palanza, ou simplement le long des petites maisons des pêcheurs, en quête d'un regard capable de lui fournir ce coup de folie, cette idéalisation élémentaire à quoi nous devons le désir première fonction de la vie, et à défaut duquel nous prenons cet aspect de mort qui avait paru si effrayant une minute sur le visage de l'idéaliste. L'heure approchant, Gabriel vint se joindre au groupe dont faisait partie Madame Belvidéra. Il voulait faciliter son départ, auquel toutes sortes d'obstacles pouvaient vraisemblablement s'opposer, et dont le moindre, à sa prévision, n'était pas celui de laisser sa petite fille. Cet enfant méritait toute l'adoration dont elle était l'objet. Elle avait une intelligence précoce qui ne nuisait pas, ce qui est rare, à la grâce tout ingénue de ses manières. Elle était d'une tendresse excessive et ressemblait physiquement à sa mère, avec un penchant méditatif, une attitude réfléchie, qui donnait au velours sombre de ses yeux un dessous profond que sa mère n'avait pas. « Alors, tu seras sage, Louisa, hein? Et que feras-tu si maman rentre tard ?»« Mais je penserai à toi. »« mais non, il ne faut pas tout le temps penser à moi. Tu joueras et tu iras te coucher. » »« Moi, je jouerai si tu veux, mais ça m'amusera pas. »« Mais pourquoi ?»« Parce que j'aime pas quand tu es pas là. »« Voyez-vous ça ?»« Ben oui, c'est comme ça. » »« Louisa, on ne parle pas ainsi à sa maman. » On fait ce que l'on vous commande et on se tait. Mais je ferai, maman, tout ce que tu commanderas. Et elle reprenait avec un petit air entendu et résigné un travail à l'aiguille dont elle s'acquittait à l'émerveillement de ces dames. Après un silence. Et s'il m'arrivait malheur pendant que tu ne seras pas là, maman? Comme ça, il n'y aurait pas moyen de te prévenir. Il n'y a pas de télégraphe où tu vas. Voyez-vous la petite coquine, dit Madame Belvidéra. Elle veut savoir où je vais. Mesdames, avez-vous vu une petite curieuse, comparable à cette demoiselle? Mais c'est très délicat, c'est très gentil de sa part, dit Solveig. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Mais tu sais bien, Louisa, que je vais voir Madame X, qui est en ce moment à Palanza. Mais maman, tu ne me l'avais pas dit. « Mademoiselle, ma fille, je vous en demande pardon. Dorénavant, je ne ferai rien sans vous prévenir. » Mais après un silence, la petite reprenait avec une insistance très habile. « Alors, ça fait donc, maman, que s'il m'arrivait malheur chez madame... »« Ah, ça me tue assommante avec ton malheur. En voilà des idées, mais quel malheur veux-tu qu'il t'arrive ?»« Et puis tout cela, c'est de l'entêtement. » « Mademoiselle n'est pas contente parce que je ne l'emmène pas, voilà. Mais tu sais bien que je ne veux pas que tu reviennes tard en bateau. Enfin, assez, n'est-ce pas ?» C'était la première fois que Gabriel la voyait parler un peu durement à Louisa. Il partageait toute la souffrance qu'elle en devait ressentir et l'aimait de faire cela à cause de lui. Mais il craignit la crise que cette contrainte pouvait amener et la réaction possible... L'abandon soudain du projet. Il fallait ruser avec une ténacité très dure contre l'extrême finesse de la fillette. La mère l'aimait à la folie et il ne pouvait s'empêcher d'admirer et d'aimer cette enfant trop gracieuse et trop intelligente qui guerroyait contre lui avec des roueries de diplomate. La petite avait renfoncé quelque temps une larme. Puis voyant qu'elle ne pouvait la contenir, elle s'était levée précipitamment,
était allé se jeter sur les genoux de Solveig pour qui elle éprouvait une grande amitié. Était-ce un élan naturel ou une dernière ruse? La plus forte, assurément. L'emploi de la provocation à la jalousie pour attendrir sa mère. L'effet fut infaillible. À peine l'enfant recevait-elle les caresses de Solveig que Madame Belvidéra allait la prendre dans les bras de la jeune fille, la couvrait de baisers, et fondant elle-même en larmes, tout à coup, entraînait sa fille à l'intérieur de l'hôtel. « Et vous, monsieur Dampierre, dit à brûle-point Madame de Champdoiseau, vous ne faites pas de promenade aujourd'hui ?»« Mon Dieu, madame, j'ai un assez grand malade de tête et je pense que j'irai marcher sur la route quand la chaleur sera un peu tombée. » Il était ému de la scène qui venait de se passer et la question méchante de cette pigrièche lui faisait légèrement trembler la voix. Il rencontra, sans l'avoir cherché, l'énigmatique regard de Solveig qui était fixé sur lui au moment où il parlait. Peindre ce qu'il y avait dans ses yeux est chose impossible. De l'anxiété, de la pitié, une sorte de douce remontrance, une exhortation involontaire, un chagrin réel, enfin par-dessus tout, une complaisance, un fond de sympathie, simple, franc, éclatant d'évidence, qui luttait contre tout le reste et semblait noyer tout le reste dans l'humidité limpide de ce regard bleu. Il avait eu bien des impressions, par le court moyen d'un geste, d'un regard, d'un seul clin d'œil, mais jamais il n'avait éprouvé dans un temps aussi court et par un moyen aussi simple une émotion si intimement cuisante et si complexe. Le résultat en lui fut plutôt une sorte de colère contre cette jeune fille sérieuse, presque silencieuse au milieu du jacassement des femmes, et qui voyait dans ses faits et gestes, qui percevait, clair comme le jour en ce moment-ci, le double jeu de Madame Belvidéra et le sien, qui lisait son mensonge sur ses lèvres au moment où il le prononçait, qui avait lu le mensonge pénible de la jeune mère à sa fillette et comprenait aussi nettement le merveilleux instinct de l'enfant luttant contre l'absence insolite de sa mère. Mais qu'est-ce qu'avait donc cette demoiselle à venir regarder dans ses affaires? Et sa sympathie par-dessus le marché, sa compatissante complaisance, sa gracieuse indulgence envers l'auteur responsable de cette tragique comédie, mais qu'en avait-il faire en vérité? Il la trouvait énervante au suprême degré. Il s'en alla en flânant sur la route, afin de dépister tout au moins la surveillance de Madame de Champdoiseau, et prit une barque fort loin de l'embarcadère de l'hôtel, désespéré d'ailleurs quant à la réussite de sa soirée à l'Isola Madre. Il eut un véritable étonnement en faisant lentement le tour de cette île, après plusieurs crochets sur le lac, de découvrir la barque qui portait Madame Belvidéra, amarrée déjà sur une petite plage naturelle. Il ne joua donc qu'incomplètement la surprise qui était nécessaire à cause des bateliers et entraîna la jeune femme hors de toute vue. Le bonheur de la voir là, à lui seul, dans cette île déserte à cette heure, et après en avoir désespéré, lui donnait une folie enfantine. Louisa s'extasia tout de suite sur la richesse du paysage, sur le nombre et la magnificence des arbres, où les beaux tons de l'automne commençaient à répandre ces cuivres rouges et ces vieux ors qui donnent au feuillage une saveur majestueuse. « Mais, dit-elle, je ne vois pas par où l'on pénètre dans votre île. Chut, chut! Savez-vous bien qu'il est tard et que l'entrée ordinaire nous est interdite? On ne doit pas entendre sonner la cloche des Borromées passé 5 heures du soir. » « Alors par où passons-nous? Mais par une porte dérobée. Oh, mais c'est délicieux. Dites donc, mais il y a du danger à faire ça? Ben, je le crois bien. Figurez-vous qu'il y a 9 jardinières robustes établies dans ce grand palais rose que nous apercevons de Strezza et d'Isola Bella. Et vous frémiriez si je vous faisais la description de l'arsenal de défense dont ces gaillards-là sont munis afin de tenir à l'abri du vol leurs graines, leurs plantes rares et les innombrables oiseaux qui peuplent cette forêt. Brouh,
dit-elle, tout en courant et en sautant sur le rivage étroit que l'eau venait battre doucement. Sans compter, ajouta-t-elle, que nous débarquons un peu comme des malfaiteurs. Et elle s'élançait la première à l'assaut de la forteresse fleurie. Attention, pas par là. Tenez, voyez ici ces marches naturelles qui s'enfoncent sous les branches. Bon, c'est là notre brèche. En avant. La petite porte était ouverte. Ils n'eurent qu'à en franchir le pas en déchirant de longs fils d'araignée. Le chemin qui s'offrait à eux était d'un romanesque achevé. D'énormes touffes de lierre pendaient à droite et à gauche, et leurs lourdes guirlandes se croisaient çà et là au-dessus de leurs têtes. Des vignes vierges parasites enlaçaient avec des airs de paresse élégante le tronc des arbres, et d'en haut semblaient laisser pendre avec affectation leurs lianes de pourpre. Pas un être humain, pas un bruit, sinon celui des oiseaux que leur passage effarouchait. « Oh !» fit-elle tout à coup, « voilà le palais rose !» Et ce furent des exclamations sans fin à mesure qu'ils approchaient de ce grand bâtiment dont le dos uni et tendrement coloré communique tant d'agréments de loin à la grasse silhouette d'Isola Belladré. Rien n'est plus joli que la façade qui donne sur les jardins intérieurs. L'entrée se trouve sous un portique surmonté d'une loggia ouverte où les pampres, les lierres et les églantiers serpentent en liberté au long des balustrades. De grosses touffes de fleurs emmêlées et lourdes se laissent tomber de l'appui des fenêtres et de la rampe de la loggia. Et si ce lieu était habité par des fées, on croirait volontiers, à l'heure indécise du crépuscule, que ce sont les bras nonchalants de ces belles personnes endormies. Les portes étaient closes au moment de leur arrivée. C'était une paix, un silence complet. On osait à peine marcher. On retenait son souffle. Les plantes innombrables commençaient d'exhaler leur baume dans l'air amolli du soir. « Venez !» Il la prit par le bras et la mena jusqu'à une fenêtre entrouverte du rez-de-chaussée. Elle se haussa sur la pointe des pieds et regarda. « Oh, oh » dit-elle, « oh, ça, c'est trop joli !» C'était une chambre ancienne avec un mobilier rustique du siècle passé. On y avait vu d'un côté sur le lac et de l'autre sur les jardins tropicaux de l'île. Une quantité de fleurs fraîchement coupées, étalées un peu partout dans de larges paniers, laissaient choir une à une les gouttelettes du dernier arrosage. « Voilà, dit-elle, l'endroit où je voudrais vivre. Et il est à vous ?» Il avait gagné les bonnes grâces du chef des jardiniers qui, en lui faisant visiter la maison, lui avait expliqué que cette pièce était affectée au dépôt des fleurs cueillies chaque soir et que la belle Carlotta venait prendre à la nuit pour les vendre dans les hauts hôtels et les villas à Palanza ou à Baveno. Pour son amour des fleurs, il avait donné au jeune homme toute permission de les venir respirer à son aise jusqu'au moment de leur enlèvement par la marchande des Borromée. C'était le plus délicieux rendez-vous d'amour. Gabrielle voulait entrer tout de suite. « Oh non !» dit-elle. « Promenons-nous au moins !» Il lui reprit le bras et lui dit ce torrent de choses qui viennent confusément à l'esprit et au sens lorsque l'être longtemps contenu tout à coup déborde à l'abri des importuns et de l'ordinaire badinage. Ils marchaient au hasard des allées. Dans le désordre de leurs paroles, elle lui adressait subitement une question sur une plante exotique qu'elle remarquait au passage. « Qu'est-ce que c'est donc que ça ? » demandait-elle. « Qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? » lui répondait-il en souriant. « Oui, en effet. » Et elle riait de son rire clair et magnifique, en renversant un peu en arrière sa tarte qu'il soulevait et portait avec enivrement. Elle était toujours vêtue de ses toilettes claires qui enchantaient son amant. Et son grand chapeau de paille blanche, muni de dentelles retombantes, faisait de toute sa personne la plus étonnante de ces fleurs extraordinaires aux noms inconnus qui s'étalaient sur leur passage. « Et vous, qui êtes-vous » lui dit-il.
Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? En effet, puisque je t'aime. En relevant les yeux, la grande beauté de la vue les éblouit. Deux trouées, l'une sous les branches d'un chêne à feuilles gigantesques, l'autre dans l'intervalle d'un massif de houx frisés de camphriers, leur découvraient, d'une part, la corde méridionale du lac, et de l'autre, la ville de Palanza, blanche et charmante, assise au bord des eaux tièdes, comme une jolie fille paresseuse qui les attendrait à fraîchir avant de s'y baigner les pieds. Le soleil, à ce moment, passait de l'autre côté des montagnes. Une brise infiniment légère fit glisser une ride à la surface de l'eau. Des nuages chargés d'or s'élevèrent, et la pâleur de Palanza s'anima jusqu'au rose d'une jeune chair. Les eaux elles-mêmes semblaient devenir molles comme du lait, et en prenaient la teinte grasse et bleuâtre. La ligne des montagnes s'adoucit. Toutes les choses se résolurent en un attendrissement général. C'était une heure si touchante et d'une beauté si communicative qu'ils en furent presque suffoqués et prirent tout naturellement la direction de leur palais et de leur chambre fleurie. Ils couraient, ils traversaient en sautant les plates-bandes et les tapis de gazon. Elle s'arrêtait par moments et portant la main à son cœur. « Oh, j'ai chaud aux joues, disait-elle, sens un peu. » Les oiseaux se couchaient. Au milieu du ramage, on pouvait distinguer le cri des paons. Gabriel et Louisa se retournèrent vivement à un bruit qui vint par une grande allée droite, descendant jusqu'au lac par de longues marches plates et moussues. « Oh, voilà quelqu'un, dit-elle, j'ai peur. »« Mais folle, dit-il, ce sont les paons. » En effet, une dizaine de paons remontaient gravement l'allée comme une réunion d'imposants personnages. Cependant, on vit dans l'ombre tourmente une forme humaine qui se glissait le long des hautes buis taillées. L'individu cherchait évidemment à se dissimuler. Ce ne pouvait être un des jardiniers. « C'est quelque gamin qui vient prendre des oiseaux. Oh, il n'est pas dangereux pour nous. » Et c'est lui qui aura le plus peur en nous apercevant. Oh, dit Gabriel en le reconnaissant tout à coup, mais c'est l'amoureux de la belle Carlotta. Comment, c'est ce méchant vaurien qui est si jaloux et qui ne la quittait pas d'une semelle l'autre jour en lisant la belle là. Mais pourquoi l'appelez-vous méchant? Il aime cette fille, il est jaloux et violent. C'est bien naturel. J'espère toutefois que cet animal-là va nous laisser tranquille. » Il parut gêné en les voyant et prit immédiatement une contre-allée qui l'éloignait de sa direction première. « À la bonne heure !» s'écria Don Pierre, en s'élançant vers un lourd rideau de lierre pour pénétrer sous le portique où se trouvait l'entrée de la chambre. Il le tenait relevé d'une main pour permettre à la jeune femme de pénétrer promptement dans leur refuge. « Tiens » fit-il. Le vent nous a fermé la porte. Il souleva le loquet en se heurtant assez violemment contre la porte qu'il croyait devoir céder aussitôt. Elle était fermée intérieurement. C'est un peu fort, par exemple. Allons-nous-en, je vous en prie, dit-elle. Il y a peut-être quelqu'un, j'ai peur. Elle avait déjà repassé le rideau de lierre quand il entendit que l'on remuait dans la chambre. Il demanda « Qui est là ?» Puis il prononça le nom du chef jardinier. On ne bougea plus et ne dit mot. En entendant parler à quelqu'un, Madame Belvedere s'était enfuie. Il alla la rejoindre sous un berceau de verdure où elle s'était réfugiée toute tremblante. Il la rassura contre un danger, mais il était furieux. Quels étaient les importuns qui étaient venus s'emparer de leur chambre ? C'est quelqu'un qui a eu la même idée que vous, mon ami. Et ils ne purent s'empêcher de rire. Au travers d'un groupe de bruyères arborescentes, ils apercevaient l'entrée du portique, légèrement noyée dans l'ombre. Ils imaginaient l'agrément que les derniers feux du crépuscule devaient donner à cette chambre fleurie. Ils ne pouvaient détacher les yeux de cet endroit.
Ce sont peut-être les fées qui sont rentrées chez elles à cette heure-ci. » Et ils regardaient les guirlandes lascives et parfumées qui débordaient des fenêtres et qu'ils avaient comparées aux bras des fées endormies. La maison était si jolie et le prestige de l'heure si favorable aux songes les plus chimériques que cette gracieuse idée ne leur paraissait pas folie. Comme il soupirait cependant, elle lui dit, à demi souriante, « Après tout, peut-être votre habile poète anglais a-t-il raison ? Pourquoi vouloir donner à l'amour, dont nous ne sommes seulement pas dignes de prononcer le nom, une forme délimitée qui ne saurait que l'avilir ? Pourquoi ne pas user de toutes les choses du monde qu'à la manière d'un tremplin qui vous élance vers le ciel ?» Il lui baisait les bras et elle riait de la tournure de sa pensée. Il n'osait pas lui dire ce qu'il savait de la douleur intime de l'original ascète. Il n'avait plus le courage de plaisanter ses manies. Il allait essayer de détourner le sens de la conversation lorsqu'ils entendirent un peu de bruit du côté de leur portique et virent une main qui soulevait le rideau de lierre. Madame Belvidéra, très émue, serrait la main de Gabriel. Il attendait lui-même avec anxiété. Le lierre fut écarté, une jolie tête parut, très reconnaissable malgré la faible lumière. C'était la belle Carlotta. « Ah ! » fit-il tout bas. « Petite coquine de Carlotta, je gage que tu ne t'enfermes pas à double tour avec les fleurs pour entresser des guirlandes à la Madone ou à ton saint patron. »«
Attendez donc, » dit Madame Belvidéra, « je crois qu'il y a quelqu'un avec elle. »
« Parbleu, je le crois bien. Et comme c'est pas son amoureux officiel, je comprends la mauvaise mine que faisait celui-ci tout à l'heure en longeant les buis.
Bon, je donnerais je ne sais quoi pour savoir qui est avec elle.
Oh, c'est quelqu'un que je ne plains pas et qui a du goût assurément.
Oh, le fait est que cette fille est d'une beauté.
Ha, ha, ha !» s'écria-t-elle pris soudain coup d'un fou rire si violent que Gabriel dut lui poser une main sur la bouche de peur qu'elle ne se découvrît. Et elle lui indiquait le petit trou dans le feuillage.
« Mais regardez donc, c'est votre ami Dante Leona William Lee !»
Il vit en effet Dante Leona William Lee, qui se faisait épingler à la boutonnière par la jolie fille, une magnifique fleur d'iris.
« Eh bien, » dit Madame Belvidéra, « vous avouerez que l'aventure n'est pas mauvaise. Vous vous donnez la peine de préparer un joli nid et c'est cet oiseau-là qui vient l'occuper à votre place. Un ascète, ça vous fait pas rire ?»«
Oh, je suis abasourdi. »
« Dites donc, que pensez-vous de la particularité ?»
Ben, je pense que ce n'est pas celle-là qu'il distingue du reste des hommes, mais j'en distinguerai volontiers, pour le moment, en lui coupant la gorge à lui, à l'exclusion de tout autre.
Ne plaisantez pas avec ces choses-là. Figurez-vous que j'ai une peur que l'autre, le vilain jaloux, ne se livre à quelques démonstrations désagréables. Il est là-bas, j'ai cru voir sa tête, il n'y a qu'un instant, de l'autre côté des buis.
« Diable, est-ce qu'il faudrait maintenant que je prévince Lee du danger qu'il court ? Oh, ce serait mettre le comble à la facétie. Voyez-vous, curieux, que nous ne soyons restés à la porte de la chambre que pour veiller au salut de ce... »
« Chut, chut, voilà Lee qui descend par le petit chemin qui nous a amenés. Il a sans doute une barque qui l'attend et ne court aucun risque. » « Mais c'est pour cette pauvre fille que j'ai peur. Vous connaissez pas la violence de ces petits hommes-là, chez nous. Ce Paolo est très capable de la tuer. »
Ils sortirent de leur cachette et crurent devoir aller prévenir Carlotta de la présence de son fiancé derrière les buis. Elle ne fut nullement troublée en les reconnaissant. Ils lui demandèrent de leur vendre des fleurs en lui signalant la présence du garçon tapis là-bas avec une mine peu rassurante. Elle comprit tout de suite et se contenta de hausser les épaules.
« Vous n'avez donc pas peur ?»
Elle les regarda sans répondre. Toute sa figure exprimait une sérénité parfaite. Ses yeux splendides semblaient illuminer sa jolie figure. Elle avait le cou dégagé et une main posée tranquillement sur la hanche. Elle paraissait défier l'univers dans son inconscience. Sans doute, elle savait bien qu'elle n'aurait qu'à regarder le malheureux garçon pour voir tomber sa colère. Et sa puissance était si évidente qu'ils ne gardèrent aucune inquiétude. Par curiosité, tout au moins, ils voulurent la voir partir. Elle posa un des paniers de fleurs sur sa tête et en prit adroitement quatre autres qu'elle suspendit aux anses de ses bras. Ils descendirent derrière elle dans son sillage embaumé. Sa barque était amarrée dans le voisinage et ils la quittèrent pour aller rejoindre les leurs demeurés plus loin. Ils n'avaient pas fait 100 pas que le bruit d'une altercation les fit retourner et ils distinguèrent une prise de corps assez violente qui avait lieu certainement entre la pauvre Carlotta et son soupirant jaloux. Gabriel s'élançait quand il vit très nettement la Carlotta renverser l'homme sur le rivage, sauter dans sa barque et s'éloigner en un clin d'œil à grands coups d'aviron. Le garçon se releva, il ramassa une pierre et la lança dans la direction de Carlotta. On ne vit pas tomber la pierre dans l'eau. Les deux amants tremblaient que la malheureuse ne fût atteinte. Le gars ramassa une autre pierre, mais Carlotta éleva sa voix admirable et tranquille, qui éveilla un écho au mur du palais et se répandit sur le lac paisible. Elle ne précipitait déjà plus sa course. Elle ramait avec son impassibilité ordinaire. Il n'y avait pas trace d'une émotion particulière dans le charme étrange de son chant impudique et candide. L'homme ne lança pas la seconde pierre. Gabriel et Louisa furent bercés tout le temps du retour par le chant ininterrompu de celle qu'il croyait la maîtresse de Dante Leonard William Lee.